DW. Pulsation.
L'Afrique à la conquête de l'espace. Les pays africains qui développent des programmes d'aérospatial sont de plus en plus nombreux. Nous verrons qu'une aide extérieure est cependant toujours nécessaire. En fin d'émission, coup de projecteur sur la naissance de Rosa Parks. Mais tout de suite, un mot du jour qui s'impose. Cancer. Bonjour à toutes et à tous. C'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Comme chaque année, le 4 février, c'est aujourd'hui la journée internationale contre le cancer. L'occasion pour Pulsation de se pencher brièvement sur l'origine et la signification du terme sur la base d'un texte aujourd'hui de notre stagiaire Aimé Douchimé. Le mot cancer tire son origine du latin cancer qui signifie crabe. Pourquoi la maladie a-t-elle été baptisée ainsi ? Eh bien, il y a environ 2400 ans, dans la Grèce antique, le médecin Hippocrate, en observant une tumeur du sein, a constaté que les veines s'écartant de la tumeur en rayon étaient semblables aux pattes d'un crabe. Et c'est la raison pour laquelle il donna au phénomène le nom de cancer. Il s'agit d'une maladie causée par la transformation anormale de cellules dans le corps. Ces mutations prolifèrent et peuvent former une tumeur dangereuse pour l'organisme. Les cellules cancéreuses ont tendance à se détacher de la tumeur et à se déplacer à travers les vaisseaux sanguins et lymphatiques pour aller former d'autres tumeurs. C'est ce que l'on appelle les métastases. Mais le terme cancer désigne autre chose que la maladie. On appelle aussi cancer une constellation d'étoiles qui prête son nom au signe du zodiaque ou signe astrologique pour les personnes nées entre le 21 juin et le 22 juillet. On parle aussi du tropique du cancer. Il s'agit d'un des 5 parallèles principaux de l'hémisphère nord qui traverse en Afrique l'Algérie, le Niger, la Libye, le Tchad et l'Égypte. Et enfin, retour aux sources du terme, puisqu'aujourd'hui encore, le mot cancer désigne un genre de crabe constitué de plusieurs espèces de tourteaux vivant dans le Pacifique et l'Atlantique.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère.
Et pour illustrer notre mot du jour, nous écoutons Stromae. Cancer, point d'interrogation. Une chanson sur le cancer, dont une des phrases du refrain dit « Qui est le prochain ?»
Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu, tu m'étonnes et tu m'aides.
Vous écoutez Pulsation sur la Deutsche Welle et nous allons maintenant dans les étoiles. L'Afrique en route pour le 7e ciel. Dernièrement, l'Éthiopie a mis son premier satellite sur orbite. L'engin conçu par des ingénieurs éthiopiens et chinois a été financé en grande partie par le gouvernement chinois. Le coût s'élève à plus de 8 millions de dollars. Une somme qui paraît importante, mais qui correspond à un secteur en pleine expansion sur le continent, comme l'explique Temidayo Asia Oniozun, qui est directeur exécutif de l'organe de presse nigérian Space in Africa à Lagos.
L'industrie africaine de la recherche spatiale est évaluée à 7,37 milliards de dollars. Selon les estimations, elle devrait atteindre un volume supérieur à 10 milliards d'ici 2024. Aujourd'hui, déjà 11 pays d'Afrique subsaharienne possèdent leurs propres satellites dans l'espace.
En 1999, déjà, l'Afrique du Sud ouvrait la danse en envoyant un satellite baptisé Sunsat en orbite. C'était le premier pays d'Afrique subsaharienne à réaliser un tel projet. Le Nigeria a lui débuté en 2003 et a placé depuis 4 satellites dans l'espace avec l'aide de la Grande-Bretagne, de la Chine et de la Russie. Le Ghana a suivi en 2017 avec Ghanasat 1 grâce au soutien du Japon. Et l'année dernière sont venus s'ajouter le Rwanda avec l'aide de la firme britannique OneWeb et le Soudan en coopération avec la Chine. Temidayo Oniosun.
Beaucoup de programmes existent donc en partenariat avec des grandes puissances. Avant, la plupart étaient réalisés avec l'Europe, mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, d'autres pays investissent dans des programmes spatiaux africains comme le Japon, la Chine, la Russie, en plus de l'Europe et de la Grande-Bretagne.
Ainsi, il y a deux ans, la Chine a mis 550 millions de dollars à disposition du Nigeria pour l'achat de deux satellites de fabrication chinoise, évidemment. Deux éléments qui doivent être propulsés dans l'espace cette année. Pourtant, le Nigeria est pour l'instant le seul pays en Afrique qui essaie de construire ses propres satellites, comme par exemple le Nigeria Sat-X. En effet, la plus grande économie du continent a de grands projets. D'ici 2030, le Nigeria souhaite envoyer un astronaute dans l'espace avec l'aide de la Chine. D'ailleurs, à l'instar de l'Afrique du Sud, le Nigeria entretient une agence spatiale. Et le Ghana est sur la voie grâce à une coopération de son centre de sciences et techniques de l'espace avec la Chine.
Pour la Chine, il s'agit avant tout de politique. Prenez l'Éthiopie par exemple. Elle a de très bonnes relations diplomatiques avec la Chine, qui développe son réseau à travers toute l'Afrique. Et pour un projet spatial, c'est idéal car les gouvernements veulent travailler avec des partenaires de confiance.
À ce petit jeu, la République chinoise a une certaine avance. C'est en effet l'un des plus grands investisseurs en Afrique et le plus grand partenaire économique du continent. Lors du Forum économique Chine-Afrique de 2018, le pays du soleil levant a annoncé vouloir soutenir financièrement l'Afrique à hauteur de 60 milliards de dollars, en plus des douzaines de projets qu'elle réalise sur le continent. Des investissements colossaux qui ne sont pas gratuits, explique le directeur de recherche de l'organisation de presse The China Africa Project, Cobus van Staden.
La Chine en profite largement, elle peut étendre ses marchés et elle s'ouvre des secteurs lucratifs dans la moindre concurrence. Par ailleurs, elle s'assure la bienveillance des États africains, crée de nouvelles opportunités commerciales et instaure ses standards technologiques.
C'est donc sa stratégie commerciale qui fait le succès de la Chine en Afrique. Selon Cobus van Staden, elle a moins de scrupules d'ordre idéologique que les puissances économiques de l'Occident, qui par ailleurs sous-estiment le potentiel du continent.
Beaucoup de firmes occidentales considèrent que l'Afrique n'est pas à la hauteur économiquement, alors que plusieurs pays du continent connaissent les meilleurs taux de croissance au monde. Beaucoup ne pensent à l'Afrique en termes d'aide financière, mais pour verser des fonds, les donateurs posent des conditions comme des réformes politiques par exemple. La Chine, elle, ne veut que le profit, elle se soucie peu des droits citoyens ou de ce genre de choses. Or, l'Afrique veut se développer économiquement. C'est pourquoi elle se tourne vers la Chine. Certains gouvernements africains trouvent les Occidentaux trop interventionnistes.
Étant donné que les investisseurs comme la Chine ne se préoccupent que du profit, ces derniers misent avant tout sur les nouvelles technologies de communication. C'est du moins l'avis de Temidayo Onyosun. Selon lui, il s'agit pour eux de favoriser le développement des connexions à haut débit et l'accès à l'Internet. La moitié de la population africaine n'a toujours pas accès au web et investir dans ce secteur promet un excellent retour sur investissement, affirme le directeur de Space in Africa. En outre, de nouveaux satellites et un programme spatial plus développé pourraient aider à régler d'autres problèmes plus fondamentaux. Temidayo Onyosun.
Je ne dirais pas que le secteur de l'astronautique en Afrique a la priorité absolue, mais la technologie de la recherche spatiale peut permettre de s'attaquer à des problèmes que connaissent certains pays. L'agriculture, la gestion de crise, la sécurité. On peut utiliser la technologie spatiale pour résoudre ces problèmes.
L'Union africaine a entériné dès 2017 une circulaire concernant la recherche spatiale en Afrique. Les sciences astronautiques sont en mesure de promouvoir le développement économique et la gestion des ressources naturelles sur ce continent. C'est pourquoi, en Égypte, doit voir le jour l'Agence spatiale africaine. Temidayo Onyosun espère qu'elle sera opérationnelle dès la fin de cette année.
Les échanges avec des pays comme la Chine pour emmener l'Afrique dans l'espace sont très importants. Il faut des transferts de compétences. Nos ingénieurs peuvent aller à l'étranger pour voir comme toute cette technologie fonctionne et être en mesure de le mettre eux-mêmes en place à l'avenir. Jusqu'à maintenant, il existe très peu de possibilités en Afrique d'étudier le génie aérospatial.
Pour que ces échanges aient bien lieu, il faut cependant que les gouvernements africains exigent que se fassent ces transferts. Mais tous les dirigeants n'ont pas les mêmes capacités à se faire entendre, explique Cobus van Staden.
Ça dépend des gouvernements. Pour obtenir une transmission du savoir-faire, il faut être capable de mettre la pression. Par exemple, les Éthiopiens savent vraiment y faire pour exiger que les ingénieurs chinois ne se contentent pas de faire leur job et de partir. Il faut évidemment établir des conventions qui le permettent. Mais en tout cas, sans pression, cela ne fonctionne pas. et certains pays africains sont meilleurs que d'autres pour ça.
En tout cas, une chose est sûre, il faut absolument un transfert de connaissances pour qu'un jour, il y ait dans l'espace des satellites « made in Africa ». Merci à Célia Frelich qui a recueilli ses témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks, aurait eu 117 ans aujourd'hui. Elle est née en effet le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama. Rosa Parks est devenue une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain. Pourquoi ? Eh bien, le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de $15. Quatre jours plus tard, elle fait appel de ce jugement. Et un jeune pasteur noir de 26 ans, qui n'est autre que Martin Luther King, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. Rosa Parks est morte le 24 octobre 2005 à Detroit, dans le Michigan. Pour se quitter, on écoute une chanson d'Adama Kone qui rend hommage à Rosa Parks. C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur dw.com/français. À très bientôt sur nos antennes. Salut. Back in the days, the mother